France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour à tous. Violence, brimade et encadrement à la dérive. Un ancien militaire dit avoir vécu l'enfer dans l'armée. Il a déserté et compte bien dénoncer ses abus lors de son procès aujourd'hui. Il témoigne dans ce journal. Sous la pression de Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens esquissent un financement de l'aide militaire à l'Ukraine grâce aux avoirs russes confisqués. Nous serons à Bruxelles. Dans ce journal aussi, le vin français qui ne séduit plus autant les Chinois. La 30e édition du SIDAction, nous verrons à quoi sert concrètement l'argent des dons. Et puis les frères Lebrun, prophètes en leur pays au championnat de France de tennis de table.
Et à 7h45 sur Inter, une fois n'est pas coutume, il est question de bonheur dans le débat éco. La France recule dans le classement publié par les Nations Unies. Est-ce la faute de l'économie ou du déficit qui se creuse? L'argent peut-il faire le bonheur? Question posée à Dominique Seux et Thomas Porcher.
France Inter.
Ils sont plusieurs centaines chaque année, Alexis.
Oui, 1800 en moyenne, selon les chiffres officiels de 2018, à claquer la porte de leur régiment, quitter l'armée sans prévenir, malgré les risques judiciaires. L'un de ces déserteurs doit être jugé aujourd'hui par la chambre militaire du tribunal de Bordeaux. Son cas est un peu particulier. S'il a rompu son contrat, affirme-t-il, c'est parce qu'il ne supportait plus les violences, les brimades, les humiliations. Et Delphine Evenou, il a bien l'intention de raconter aujourd'hui ces mauvais traitements à la barre.
En 2021, Hugo rejoint l'armée de terre, régiment de Tarbes. Le jeune homme veut se sentir utile, aime la discipline. Les missions passent, la désillusion arrive.
J'ai des collègues à moi, par exemple, qui ont voulu me raser les cheveux et ils en ont profité pour me faire une croix gammée derrière la tête. J'ai eu des coups de matraque télescopique pendant que j'étais en mission sentinelle ou des coups de bombe lacrymogène.
Coups, humiliation, consommation d'alcool et de drogue chez les cadres, assure-t-il. L'exemplarité qu'il a attendait de l'armée lui semble bien loin. Le soldat de première classe ne signale pas les faits. Il préfère tout simplement, en janvier 2023, ne plus remettre les pieds dans son régiment.
Je n'ai pas déserté parce que le métier ne me plaisait pas. C'était pas question de rigueur, mais il y a des limites qui ont été dépassées à ce moment-là et c'est pour cela que j'ai quitté l'armée.
C'est sa convocation devant la justice qui le décide à prendre la parole, car Hugo estime que c'est l'armée et non lui qui a failli à son devoir. Maître Thibault Lafourcade, son avocat.
Là, l'idée, c'est vraiment d'arrêter le temps, d'arrêter cette mécanique un petit peu habituel de ces dossiers de désertion et de se poser des questions qui sont peut-être des questions existentielles pour l'armée. De quel type de rigueur, de quel type d'engagé on veut qu'elle soit composée?
Contacté, l'armée de terre préfère attendre que la justice se prononce sur ce dossier avant de réagir.
En théorie, ces déserteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison ferme, mais généralement la justice prononce plutôt des sursis dans ce genre de dossier. Dans l'Hérault, un maire en prison, Gilles Détor, élu LR, à la tête de la municipalité d'Agde, est mis en examen et placé en détention provisoire pour prise illégale d'intérêts et corruption dans une affaire rocambolesque. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été piégé puis corrompu par une médium qui, en modifiant sa voix, aurait obtenu de l'élu des postes à la mairie pour ses proches. On va vous raconter cette histoire dans le journal de 8h.
S'il vous plaît, ne perdez pas de temps, cette phrase est entre guillemets.
Et c'est Volodymyr Zelensky qui parle en ces termes aux dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles pour les presser de muscler leur défense et leur soutien à Kiev. Alors ont-ils répondu à l'appel hier soir? Angélique Boin, à l'issue de la première journée, les 27 ont donné leur feu vert à l'utilisation des intérêts des avoirs russes gelés en Europe pour armer l'Ukraine.
L'accord nécessite un ajustement avec quelques capitales dont Vienne, traditionnellement neutre militairement. Mais la présidente de la Commission se veut confiante. Une première tranche d'1 milliard d'euros, issue des intérêts des avoirs russes, pourrait être décaissée dès juillet. Les 27 sont aussi désormais unanimes pour que la Banque européenne d'investissement accorde des prêts aux industriels de la défense. La piste d'un grand emprunt commun n'a pas été formellement discutée. L'idée soutenue par Paris est encore loin de faire l'unanimité. Mais si les États-Unis lâchaient l'Europe, alors il faudra bien trouver des financements, a-t-il été souligné. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, l'Europe est en train de se réinventer.
Pendant des décennies, ce projet européen a été fondé sur la prospérité, sur la coopération économique, fondée sur des valeurs partagées, avec l'impression que la sécurité et la défense étaient dans les mains principalement de l'OTAN. Et je mesure bien le mot que j'utilise, je crois profondément que l'on assiste, au travers des décisions qui ont été prises aujourd'hui, à un réel changement de paradigme pour l'avenir du projet européen.
Les 27 ont aussi convenu d'ouvrir des pourparlers d'adhésion avec la Bosnie, afin d'y d'y contrer l'influence de la Russie et de l'arrimer à ce projet européen. Notre message est clair, a conclu Charles Michel. Nous sommes robustes et resterons unis face à Vladimir Poutine. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et de son côté, la Commission propose aussi de taxer les importations russes de céréales, aujourd'hui encore exemptées de droits de douane malgré la guerre, en vertu des règles de l'OMC. À l'opposé des syndicats agricoles et surtout de la filière bovine, les exportateurs français de vins et spiritueux condamnent le rejet par le Sénat du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Décision surréaliste, selon eux, dans un moment économique compliqué, disent-ils, pour la filière viticole à l'étranger. Notamment en Chine, où depuis le Covid, les ventes de bouteilles s'effondrent. Une cinquantaine de vignerons français ont donc fait le déplacement cette semaine à la foire de Chengdu pour tenter de reconquérir ce gigantesque marché. Avant la crise sanitaire, c'était même le deuxième marché à l'export pour le vin français. Sur place pour Inter, notre correspondant Sébastien Berriot.
Dégustation et négociation devant le stand des vins de la région Occitanie. Beaucoup de producteurs reviennent ici pour la première fois depuis le Covid et ils découvrent un marché chinois beaucoup moins favorable. Brieux Riwalin de la cave coopérative Foncalieu près de Carcassonne.
Pour le moment, les volumes ne sont pas encore au rendez-vous, étant donné les difficultés économiques de consommation dans le pays. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer.
Le ralentissement de l'économie chinoise a stoppé net le niveau des importations de vins français, comme le confirme cet importateur chinois, Fuching.
Avant, j'avais l'habitude d'importer chaque année plusieurs centaines de milliers de bouteilles de vin français, jusqu'à 2 millions de bouteilles. Mais aujourd'hui, la quantité importée a été réduite de plus de moitié.
La difficulté, ce sont les millions de bouteilles de vin français invendues qui, depuis le Covid, continuent de s'accumuler dans les entrepôts chinois, explique Laurent Dubois du domaine Château-les-Bertrand dans le Bordelais.
Pendant le Covid, ils n'ont rien vendu presque pendant 3 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils ont des stocks. Mes clients me disent qu'il faut qu'on écoule ce stock pour un peu recommander.
Au-delà de l'économie, il y a aussi une évolution des comportements. Les Chinois consomment de moins en moins de vin. Même le simple fait d'offrir une bouteille de vin français dans le cadre d'une relation d'affaires tend à disparaître. Dans un pays où la corruption est réprimée par le régime, ce genre de cadeau, en effet, peut paraître potentiellement suspect. Chengdu, Sébastien Berriot, France Inter.
Animateur télé, écrivain, cinéphile et ministre de la Culture sous la droite, lui le neveu d'un président de gauche, Frédéric Mitterrand est mort hier à 76 ans des suites d'un cancer. Le grand public l'avait donc découvert dans les années 80 sur le petit écran avec sa voix lancinante et son phrasé immédiatement reconnaissable. Ces légendaires bonsoirs vont nous manquer, écrit Emmanuel Macron quand l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, parle elle de Fredo, figure familière, écrivain fécond. Sur le site d'Inter, retrouvez les temps forts de sa vie et de sa carrière. Frédéric Mitterrand qui avait aussi présenté le tout premier SIDAction aux côtés de Christophe de Chavannes. Il y a 30 ans, tout juste, l'édition 2024 s'ouvre ce matin pour mobiliser des fonds pour la lutte contre le SIDA. En France, 5000 personnes découvrent encore chaque année leur séropositivité. Plus de la moitié de ces cas concernent des étrangers vivant dans l'Hexagone, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne. Mais la contamination se fait souvent sur le sol français, parfois favorisé par des conditions de vie précaires. Le SIDAction permet de financer des associations qui s'occupent plus particulièrement de ces migrants, comme Afrique Avenir et sa caravane de dépistage mobile en région parisienne. Rémi Brancato l'a suivi.
Sur le parvis de cette gare RER dans le nord-est de Paris, les médiateurs interpellent les passants.
On propose aussi des préservatifs.
C'est possible de se faire aussi dépister gratuitement juste ici.
Carole, venue du Togo, coiffeuse, monte dans le véhicule.
Et votre test avec toi, moi ?
Oui.
Il était négatif.
Oui.
Pas besoin de refaire un test rapide. Ce TROD qui donne un résultat en 10 minutes avec une goutte de sang, mais elle s'inquiète du comportement de son compagnon.
Il couche avec d'autres. Et des fois, il couche avec les filles sans se préserver. Je vois des amis qui se contaminent. Ça fait peur.
Mohamed, ivoirien, en France depuis 2 ans, c'est lui qui l'a pris des risques.
Tu as couché avec des femmes, tu t'es pas protégé. Tu sais pas, elles ont des maladies. Ça peut arriver.
Il reviendra faire le test dans quelques jours en France, selon le SIDAction. 34% des nouveaux séropositifs sont arrivés récemment d'Afrique subsaharienne et c'est ici que la contamination intervient, souligne Thierry Miati, médiateur en santé pour Afrique Avenir.
Ces personnes ne cherchent pas à se faire dépister en arrivant. Nous avons des personnes, elles se trouvent dans la rue, ça génère des fois le sexe économique. Ils vont échanger une partie de leur corps contre un financement quelconque, sans protection.
Une précarité qui met la santé au second plan, alors les associations alertent. Si le gouvernement remet en cause l'aide médicale d'État pour les étrangers, les contaminations pourraient empirer.
Et je vous rappelle le numéro 110 pour un don au SIDAction ou sur sidaction.org. Les 60 000 salariés d'Auchan appelés à se mobiliser aujourd'hui par tous leurs syndicats pour défendre leur rémunération. L'enseigne de la grande distribution vient de présenter des résultats en nette baisse pour 2023, mais elle espère rebondir grâce au rachat d'une centaine de magasins Casino.
Ils incarnent de réels espoirs de médailles françaises aux Jeux Olympiques.
Les frères Lebrun, Alexis et Félix qui permettent à la France de tutoyer à nouveau les sommets mondiaux du tennis de table. Félix, 17 ans, est même classé 5e mondial. Autant dire qu'ils sont largement favoris pour les championnats de France qui débutent aujourd'hui chez eux en plus à Montpellier, en terrain conquis donc, mais avec la pression supplémentaire qui va avec, d'autant que c'est leur famille qui organise la compétition. C'est ce qu'on appelle du sport fait maison. Reportage Clara Lecoq-Réal.
Dans la famille Lebrun, je demande la sœur, Margot. À 23 ans seulement, elle est chargée d'organiser ces championnats de France.
Si je peux apporter ma petite pierre dans leur parcours, qui est exceptionnel, eh ben, tant mieux. Donc j'espère qu'ils vont apprécier tout ça.
Car tout est fait pour contenter Alexis et Félix, les stars de la famille. Un coup d'œil vers la salle.
C'est la concrétisation de 8 mois de travail.
Les larmes montent.
Ça n'a pas toujours été facile. C'était beaucoup, beaucoup de pression. Mais je suis fière de ce qu'on a monté tous ensemble.
Ensemble, car en coulisses, il y a aussi le père, ancien joueur professionnel.
L'essentiel, c'est que les joueurs soient en sécurité. Puis s'il faut traverser cette nuit, on traverse cette nuit.
Et la mère, Dominique.
Là, je découpe les bracelets pour que quand les gens arrivent, ça aille un peu plus vite.
Attachée de presse, comptable, secrétaire pour la team Lebrun, cette institutrice a demandé à être détachée pour pouvoir aider ses fils en vue des Jeux Olympiques et gérer aussi leur fan club.
Il y a des fans même de Chine qui nous écrivent et qui nous disent « J'adore Alexis et Félix, est-ce que je pourrais avoir un petit autographe ?» Vraiment, le tennis de table, c'est toute notre vie.
Tu veux un coup de main, Tata ?
Ah oui, j'oubliais, les cousins sont arrivés en renfort. Pour qu'Alexis et Félix se sentent comme à la maison.
Clara Lecoq-Réal à Montpellier. Et puis sachez qu'on ne rigole pas avec la raclette en Suisse. Je vous parlais lundi de ce record du monde, de la plus grande raclette revendiquée par la ville de Saint-Étienne le week-end dernier. Eh bien, cela provoque un tollé chez nos amis helvètes, au point de figurer parmi les sujets du JT de la RTS en Suisse romande.
L'annonce avait de quoi provoquer une crise diplomatique et culinaire. C'est en France, à Saint-Étienne, qu'aurait eu lieu le record du monde de la plus grande raclette avec 2236 personnes rassemblées. Après la surprise et l'indignation, les experts valaisans ont réalisé qu'il s'agissait non pas d'une raclette, mais d'une misérable raclonnette. Il a donc fallu rappeler les fondamentaux.
Voilà, une misérable raclonnette. Les mots sont durs et les Suisses de rappeler qu'une vraie raclette, selon eux, d'abord, c'est sans charcuterie.
Ah oui ?
Et puis, il faut racler directement la demi-meule de fromage fondu dans l'assiette. Voilà, on attend le verdict maintenant des inspecteurs du Guinness des records.
Et vous, le puriste ?
Ben moi, c'est savoyarde, donc c'est un peu entre les deux.
C'était le journal d'Alexis Morel. À suivre quand la politique se pique de comparaisons historiques, ce sera l'édito d'Yael Gauze.